Nous avons maintenant un temps pour des retours d'expérience essentiels. C'est vraiment essentiel d'entendre un peu ce qui se passe dans les méditations des uns et des autres. Ça nous informe énormément, ça nous inspire, ça nous pose des questions, ça nous donne des nouvelles directions. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre méditation? C'est un temps pour ça. Ou un temps pour des questions par rapport au discours. Peut-être pas trop théorique si possible, parce qu'on n'a pas énormément de temps encore et d'autres choses vont se dire dans le discours d'après. Mais bon, si c'est nécessaire pour vous permettre de continuer à pratiquer, alors théorique, sans problème. Une question par rapport aussi à la méditation guidée, oui. Oui.
Afin de ne pas laisser venir les idées, les pensées, je me suis concentrée sur la sensation physique de l'air qui refroidissait la langue quand j'inspirais et j'essayais d'expirer par le nez pour sentir le passage de l'air. Je me disais, est-ce que c'est pas aussi une pensée présente tout le temps? Est-ce que c'est ça vers lequel on doit attendre? Ou bien est-ce que c'est aussi une façon de faire que de se concentrer sur la sensation physique qu'apporte l'air quand on inspire ou quand on expire?
C'est pas, il n'y a pas besoin d'une pensée. Alors il y a un plan au départ. Mon plan, ça va être de sentir l'air sur la langue à l'inspire et de sentir l'air sur la lèvre à l'expire. Donc il y a un projet. Mais après ça, il n'y a pas besoin à chaque inspiration de dire je sens l'air sur la langue qui la refroidit et je sens l'air sur la lèvre qui. On ne se le dit pas. Donc il n'y a plus de pensée, plus forcément. Tu comprends ce que je veux
On est
dire?
sur la
On
sensation
ressent.
propre.
On ressent. Donc ça, c'est la première étape. Ça nous ancre. On n'est plus, notre attention n'est plus dans la pensée, elle est dans la sensation. Et après, quand la pensée et quand l'attention est dans la sensation, ici, dans la manière dont ça a été guidé, notre intérêt n'est pas réellement la sensation. Notre intérêt est la sensation de présence qui vient quand quelque chose est vu. C'est ça l'intérêt. C'est ça, l'objet de méditation est déplacé dans cette méditation par rapport à une concentration sur la respiration pour calmer l'esprit. Là, l'objet de la méditation devenait la reconnaissance de ce que c'est être conscient. C'est la texture de la conscience, c'est l'atmosphère qui est en nous quand il y a conscience. C'est la sensation de savoir qu'on sait, d'être conscient. Le but de cette méditation, c'est de vraiment faire l'expérience de la de c'est difficile de trouver le mot, mais de la texture ou de l'atmosphère de la conscience. Qu'est-ce qui se passe quand je suis conscient? Comment je me sens quand je suis conscient? Comment je me sens quand je suis pas conscient? Donc on choisit un objet et à la limite l'objet n'a aucune importance. Donc l'objet qui vous va bien. Là d'ailleurs j'aurais pu le dire dans la méditation, j'aurais pu dire ouvrir au son, ouvrir aux sensations physiques. Ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'est pas notre but n'est pas l'objet. Donc toi, tu as choisi quelque chose d'assez spécifique qui est en lien avec la respiration et ça va très bien. À partir du moment où ça fonctionne pour fixer l'attention, va émerger cette sensation d'être présent. Et c'est cette sensation d'être présent qui nous interpelle. C'est ça, parce que cette sensation d'être présent, je ne sais pas si vous le ressentez, mais elle est en lien avec la sensation je. Avec la sensation je suis. Elle est plus au cœur, c'est plus proche de mon essence que mon activité. Par exemple, je suis maçon ou je suis. Non. Elle est plus au cœur de ma sensation d'exister. C'est en lien avec mon identité profonde. Donc, je me mets en recherche, en curiosité. Je crée le contexte pour ressentir cette présence. Ça répond. Oui, ok, merci.
Moi, j'ai
Ah,
constaté.
ouais, Adrien, et puis. Ouais.
J'ai constaté dans cet exercice de. Quand une pensée arrive, juste lâcher cette saisie pour revenir à la conscience, qu'il y avait un parallèle avec le fait que je vois avec mes yeux ce qu'il y a dans le fait que mes yeux sont fermés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si quand j'étais capté par une pensée. La sensation de vision du noir hein, qu'il y a dans mes yeux, enfin là noir, du rouge parce qu'il y a de la lumière, disparaissait Et quand je lâchais la pensée et que je revenais à la présence, tout à coup, c'est comme si je pouvais revoir et enfin entendre aussi cet espace en fait vide qui est le résultat oculaire en fait de ce moment-là. Et c'est pour
okay.
moi, j'ai l'impression que, en tout cas dans mon cas, que ça donnait une sorte d'indication de est-ce ouais. que je suis happé ou est-ce que
voilà,
je suis
voilà,
observateur
voilà.
de ce qui est en train de se passer.
Ouais, voilà, ouais. ok. Et du coup, ça ne va pas se passer pour tout le monde comme ça, mais si toi, tu as l'impression que ça fonctionne bien pour toi, bah, c'est un bon chemin à suivre. Ouais. De se rappeler de ça et du coup de ressentir en fait la vision du noir. Et quand il y a la vision du noir, ça veut dire que l'attention n'est pas happée ailleurs, sinon la vision du noir disparaît. Et du coup, dans cette vision du noir, dans ce moment de vision du noir, il y a qui voit.
C'est ça.
Qui voit le noir. Et c'est ça le cœur. C'est ça le cœur. Mais tu as comme. C'est un peu comme une lampe témoin que tu as. Enfin, ah, présence, absence, présence. Et ce jeu, présence, distraction. Et du coup, cette atmosphère qu'il y a quand on est présent et qui n'est pas là quand on est distrait et qui est de nouveau là quand on est présent, cette conscience elle-même, et on verra, beaucoup, ça va être l'objet de nos recherches, mais de nos réflexions, conscience elle-même, est-ce qu'elle est individuelle? Est-ce que c'est ma conscience ou est-ce que c'est la conscience? Tout ça va être à explorer, mais déjà, de savoir de quoi on parle dans notre expérience, c'est ça en fait le but de cette méditation. Merci Adrien. Oui, Sabrina.
Oui, je voulais partager mon expérience. Tout du long, j'ai senti une grande agitation physique, enfin, comme une sorte de vibration, presque un peu électrique. Et je me suis vue observer, je respire. Je sens mon agitation et je peux sentir ma respiration en même temps. Pour le coup, je n'ai pas eu de pensée du tout. Je suis restée avec ma respiration, je sentais ma respiration tout du long et en même temps, cette sorte d'élan de fuir, quoi, de vouloir me lever, d'aller dans tous les sens. Et que pour moi, c'était déjà énorme comme traversée, que en restant respirée, en sentant ma respiration, je suis restée, je ne me suis pas levée, quoi.
Et du coup, est-ce que c'était quoi? Un mélange d'agréable-désagréable? Un mélange, c'était quoi? C'était ça? Un mélange d'agréable-désagréable?
Exactement.
Ok. Mmh.
Ok. Et puis, observer que ça pouvait partir, mais que ça revenait,
ouais, ouais.
Et de pouvoir être tranquille avec cette sensation
ouais,
qui
ouais,
était là.
Ouais, ouais.
Et puis quand même, ce qui était derrière, c'est...
Ouais. Et là, dans ces moments-là, on a le choix. On peut donner priorité à l'agréable. On pourrait aussi donner, explorer ce qui est vibratoire, mais ce qui est agitant, l'agitation du corps. Mais dans ces moments-là, on peut donner priorité à l'agréable. Et du coup, ça aide à ce que le corps se pose et l'esprit se pose. Et ça, ça va aussi être valable quand il y a une peur. Qui peut être une expérience qui vient quand des moments où il y a moins de nous-mêmes qui apparaît, quand il y a un peu des parties de nous-mêmes qui ne sont plus présentes alors qu'on est très familier avec ça étant tout le temps là, il peut y avoir de l'inconfort ou des peurs, et il se peut que cette fébrilité qui était dans ton corps ait un lien qui n'était peut-être pas visible à ce moment-là, avec une insécurité ou quelque chose qui est un peu remis en question ou quelque chose qui est comme des habitudes un peu auxquelles on touche. Et du coup, là, donc, s'il y a, que ce soit de la fébrilité, de l'inconfort, de la peur, tout ça, si on remarque, oui, OK, il y a une peur, oui, OK, il y a du déplaisant, mais Il y a ça. Et qu'on donne de l'intérêt à ce côté peut-être agréable, posé, lumineux, ou suivant l'expérience, eh ben, ça permet que ça s'installe plus. Surtout, je pense, quand il y a des moments de peur ou de refus, une espèce de refus à l'intérieur de lâcher plus. En méditation allongée, ça arrive beaucoup aussi. Le corps est très fébrile parfois. Certains d'entre vous l'ont peut-être eu, le corps qui est vraiment agité, qui a du mal. C'est étonnant, on a du mal de rester en position. Il y a aussi une sorte de refus là. Et donc, ça montre qu'on est en train de lâcher quelque chose, mais on a atteint à un endroit pour le moment, peut-être dans cette journée ou pour le moment dans notre vie, une limite, quelque chose qui est au défi un petit peu. Juste après Daniela. Oui.
Dans certains textes bouddhistes, ils appellent ça l'état normal de la conscience. C'est-à-dire qu'ils disent que la conscience est dans son état de normalité.
Oui.
Et ce que je trouve important dans ce que tu as dit aussi, c'est-à-dire qu'on est observateur. Ce qui sous-entend qu'on prend une distance par rapport à un objet de méditation. C'est un petit peu comme s'il y avait un lien, on est branché, on observe l'inspiration, mais on s'éloigne un petit peu. Et là, s'il n'y a plus de pensée, effectivement, on peut constater qu'on est dans un état de conscience normal, paisible. On n'est pas en train de faire des allées-venues des pensées.
Oui.
Sinon, sur le discours de ce matin, globalement, par rapport à la journée précédente où c'était très centré sur un sujet, là je trouve que c'est énorme. Quoi. J'ai l'impression que tu nous amènes un gros sac.
Oui, oui.
Il y a une dimension dans ce que tu as exposé ce matin, ça n'a pas vraiment dans la dimension.
Ouais.
En particulier, la dimension psychothérapique. Et d'ailleurs, il y a certains courants bouddhistes où ils considèrent que la méditation, il y a d'une part la méditation sur la concentration, et d'autre part la méditation analytique. Ça correspond à ça. Et inversement, quand vous lisez les psychothérapeutes, ils appuient aussi sur le fait de méditer, qui est un complément indispensable pour certains au progrès d'une approche psychothérapeutique. Alors pour ça, je peux citer Guy Corneau, pour certains connaissent peut-être. Il y a un psychothérapeute québécois qui est mort il y a peu de temps d'ailleurs, et qui est très clair là-dessus, et à tel point que moi j'ai lu des bouquins de certains bouddhistes, en particulier un certain Lama Yeshe, dont certains de ses discours ont été mis dans un bouquin qui s'appelle « Soyez votre propre thérapeute ». En lisant ce bouquin, ou le bouquin du psychothérapeute, je me demandais qui a écrit quoi. On parle de la même chose. Peut-être encore du moi, de l'ego, et d'aller au-delà de ça, et ce que tu as dit au début, sur le lâcher-prise, en fait, et l'histoire de la personnalité, ce qu'ils appellent le moi, en fait, on est en plein dans ce sujet-là.
C'est-à-dire
lâcher, ça veut dire, c'est le lâcher qui est important. Lâche les autres, lâche-toi toi-même. On n'a pas besoin d'être comme ci, d'être comme ça, d'être parfait ou d'être gentil, ou enfin tout ce qui construit notre personnage en fait. Je le vois un petit peu comme ça. Il y a une dimension psychothérapie qui est vraiment passionnante. Parce que ça se complète, le travail sur la concentration. Alors tu as dit aussi la contradiction, parce que les pensées, il faut les éjecter, c'est pas notre objet. Par contre, dans certaines pratiques,
on a besoin.
Des pensées sont récurrentes, des pensées sont fortes.
Mais
si des pensées vous empêchent de dormir, ou si des pensées vous tracassent, ça veut dire qu'il y a un truc à faire. On peut les comprendre. Et dans ce cas-là, la capacité de concentration qu'on acquiert petit à petit en méditant nous permet d'avoir l'esprit beaucoup plus clair pour dire bah non, le problème, je l'analyse, je rentre dedans. Et c'est un petit peu l'image que donnent souvent les bouddhistes de la pensée, qui est un petit singe discipline.
Oui.
Il saute un peu, il s'en lance les autres, il fait n'importe quoi, il peut penser, de manière anarchique, on pense à un truc, à l'autre, c'est bizarre et un peu anarchique.
Oui. Il faut que je t'arrête parce qu'il y a d'autres retours et on va venir. Oui.
L'objet, c'est de maîtriser un peu ce petit singe et de faire travailler notre pensée de manière efficace.
Voilà, ouais. Ouais. Et donc, juste, je voulais rebondir sur un truc que tu disais. Effectivement, j'ai l'impression d'amener un gros sac. Effectivement, aussi, j'espère que ça a été, parce que je ne sais pas trop comment m'y prendre, parce qu'il y a énormément de concepts reliés à tout ça, et chaque mot, en fait, résonne différemment pour chacun d'entre nous. Et du coup, c'est vraiment un chantier, en fait. Et j'espère que vous le ressentez comme un chantier. C'est-à-dire quelque chose que chacun va se saisir de quelques fils qui ont été proposés là et qui vont nourrir notre propre exploration. Et aussi que les retraites qui vont suivre vont amener des éclaircissements sur ce que tout ça veut dire. Par exemple, ici, j'ai parlé beaucoup de construction. La semaine prochaine, ça sera sur la construction. Mais bien sûr, il y aura quand même le lâcher-prise dedans parce que c'est en fait toute une même histoire, mais il y a beaucoup trop d'éléments pour amener ça en quelques discours. Donc, c'est voilà, je me sentais même d'un certain moment en venant assez désemparé, en fait. Parce que à chaque fois que j'y réfléchissais, ça prenait une autre direction super intéressante. Et je ne peux pas les prendre toutes. Et du coup, il y a des grandes lacunes, en fait, dans ce qui a été dit pour que ça soit compréhensible. Et chacun bouche les trous un peu comme il peut. Donc, effectivement, voilà, un gros sac. Mais ce gros sac, ça va être le même pour les retraites qui suivent. Alors que les deux premières retraites avaient des thèmes un peu, peut-être plus facilement, bien qu'ils soient complètement en lien, c'est plus facile de les garder concis. Merci.
Bien. Oui, moi, c'était très particulier, cette méditation, parce qu'elle était hyperactive, c'est-à-dire du point de vue de la réflexion, des choses qui arrivaient. Et je pense que c'était important, je n'étais pas inquiète. C'est-à-dire que j'étais pas comme souvent ça arrive, je viens de partir. Pas du tout, comme disait Sabine, c'était pas du tout ça. Par contre, elle était hyper nourrie du point de vue, c'est pas juste intellectuel, d'un point de vue vraiment de concept, des concepts qui m'ont fait tilt quand tu as parlé, dès le début, désir, tout, ça m'a fait tilt. Parce que c'est quelque chose sur lequel je m'interroge et voilà, je me dis le désir est vraiment une grande pulsion de vie. Si elle n'y a pas ça, on ne peut pas vivre. Donc ça, je ne peux pas refuser ou dire non du désir. La modération, par contre, je pense que c'est un chemin par rapport à ça. Au désir, aux pensées, à tout ce qu'on dit, de lâcher. Mais je pense que le chemin, en ce qui me concerne, c'est vraiment la modération. Faire en sorte de ne pas rester trop attaché, de ne pas trop refuser, mais de ne pas... Je ne peux pas dire que je ne veux pas ou je ne veux pas avoir des désirs. C'est quelque chose qui fait en ce qui me concerne, qui est vraiment la pulsion vitale, c'est quelque chose qui vient de loin. C'est comme la pensée, juste des choses comme ça qui m'ont ponctué là. Et la pensée, je ne crois pas qu'on puisse ne pas penser.
Moi non plus.
Je pense simplement que le chemin peut être de remplacer une pensée qui, à ce moment précis, est plus favorable à ce qui est mon objectif, remplacer avec celle-ci celle qui est en train d'arriver d'une façon peut-être anarchique, je ne sais pas.
Alors là, ça pose... J'ai déjà deux questions, là. Par rapport à la pensée... Alors, attends, je me rappelle. Juste pour être clair, je pense que on ne peut pas vivre sans penser, mais on peut avoir des moments sans penser. Et je ne sais pas ce que tu voulais dire exactement. On ne peut pas vivre sans penser. C'est fini. Tac, terminé, game over. Mais par contre, on peut avoir des moments sans penser. Ou en tout cas, c'est une question. Est-ce qu'on a des moments conscients où on ne pense pas?
Alors, moi ça je te dis, mais c'est le résultat, à ce qui me concerne toujours, hein, pour les pratiques que je fais ou là où je suis, c'est un résultat, quelques états de grâce qui m'arrivent de temps en temps, qui arrivent de temps en temps, et qui est le fruit, si on peut parler le fruit, d'un travail, d'une pratique constante, sur laquelle je m'applique.
Ok, ok.
Quand on parle de modération, c'est quelque chose qui me porte, ou de ne pas s'attendre des fruits des actions qu'on fait, donc... Se confier, c'est la confiance, c'est la foi, ces choses-là
font partie d'un chemin qui arrive à ces résultats dont on parle. Mais ce n'est pas, le travail préalable. C'est pas, je m'explique pas. C'est pas que je suis là, je dis, bon, là maintenant, je vais essayer d'aller au renseignement. J'élimine. Non, j'essaye de rester avec et peut-être de remplacer, parce que si j'ai la pensée que mon voisin m'emmerde et que je veux le tuer, c'est peut-être pas celle-là de cultiver, mais, mais la remplacer avec une pensée qui est plus dans le sens de l'objectif que je me propose.
Oui. On y reviendra au fait de remplacer des pensées par d'autres, ça sera dans le discours de l'après-midi aussi, donc ça te donnera encore beaucoup de raisons de penser pendant les méditations qui suivent.
Donc du coup, je n'utilise pas le même texte, et je sais qu'il y a des différences sur lesquelles chaque fois, je... c'est comme celui qui regarde et ce qui est vu.
Oui. Mais après, de nouveau, hein, entre l'observateur et l'observé, à un moment, ce n'est plus du tout valide, ça. À un certain niveau d'expérience, parce que du coup, on reste en dualité. Après, à un moment, il y a une unité, il n'y a plus observateur observé. Mais pour le moment, on prend un point de vue qui fonctionne et qu'on peut expérimenter et qui nous amène à un certain niveau d'expérience. Et de là, quand on a suffisamment d'intimité avec cette notion d'observateur et de conscience, à ce moment-là, on peut questionner la conscience encore un peu plus loin. Mais pour le moment, c'est pour ça qu'il y a toutes ces contradictions. Et juste parce que ça me semblait important, et pour finir, je voudrais revenir sur le fait que jamais, et rare sont les enseignants, il y en a qui le disent, parfois le désir, surtout dans le bouddhisme, va être mis comme il faut vivre sans désir. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est ça que Ajahn Chah disait, il faut prendre soin des deux mondes. Il y a un monde dans lequel sans le désir, c'est impossible. Parce que c'est le désir qui met en mouvement. Par contre, il est clairement dit aussi qu'il y a une partie de nous-mêmes qui existe indépendamment du désir et qu'il faut pouvoir lâcher totalement et complètement le désir. Donc là, ce n'est pas la modération. Là, c'est encore autre chose. Là, c'est lâcher totalement et complètement le désir pour découvrir un espace de nous-mêmes qui n'est pas régi par les mêmes lois que le monde de nous-mêmes qui est régi par les lois du désir. Mais jamais je voudrais qu'il soit ressenti que moi je dis qu'il faut quitter le désir, point barre. C'est pas assez. Je voudrais qu'on prenne vraiment soin des deux mondes, et c'est pour ça que je le répète.
Mais si je peux juste. Modération, c'est dans le chemin. Hein. C'est pas le résultat, c'est dans le chemin.
Oui.
Moi, j'y suis pas. À ce que tu dis, personnellement, je n'y suis pas. À dire lâcher complètement le désir ou ces choses-là.
Tu n'as pas la compréhension de pourquoi il faudrait lâcher complètement le désir.
Voilà. Et puis, c'est pas. Je suis dans un chemin, mais qui n'a pas encore atteint ça. Juste, il y a des moments de grâce, je répète comme ça, que tu dis, voilà, ça y est. Moi, je parle de joie, de joie, cette chose qui est là, qui ne change jamais, qui est quelque chose qui a l'essence de nous. Voilà, il y a des moments comme ça, mais tout le reste, je ne le connais pas.
Voilà. Merci, Daniela.